RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Demain matin, pour les chauves, mettez vos moumoutes. Il va faire moins 25. Mais qui sont cons, la météo, ils ont mis un moins plutôt que de mettre un plus. Enfin, c'est plus 25. Bon, alors retirez votre moumoute, mettez un chapeau de paille. Hein, d'accord? Bon. Et si vous n'en avez pas, je peux vous en prêter, hein. J'en ai, moi, des chapeaux de paille. Bah ouais, parce que j'ai vécu aux Antilles, hein, il faisait chaud. Hein. Oh, j'ai vécu... j'étais à Malte, j'étais au Maroc, j'étais en Mauritanie. Partout, il fallait des chapeaux de paille. Bah oui. Hein. Il y avait même des fois, la paille, elle brûlait tellement il faisait chaud. Alors, ce que je faisais, je le retirais de ma tête. Parce que comme j'ai les cheveux longs, je me serais retrouvé tout chauve. Et là, j'aurais eu besoin d'un chapeau quand même. Bon, c'est le chapeau qui brûle, et au final, on a besoin du chapeau quand les cheveux sont brûlés, voilà, tout simplement. Mais je ne porte pas le chapeau, c'est pas moi qui fais les conneries, hein, c'est le ciel. Bon, allez, soyons sérieux. Seulement, je vais commencer par un poème très sérieux. Il y a à peu près un mois et demi, la Bosnie a malheureusement fait une commémoration, à pas dire fêter le génocide qu'il y a eu, bon, ça fait maintenant presque plus de 20 ans, hein, de ça, ouais, facile, les Serbes qui avaient massacré les musulmans, hein, bosniaques, voilà. Et moi, j'y ai été, là-bas, et donc j'ai vu les endroits, les fameuses tombes, que des stèles blanches alignées comme ça, des centaines, des centaines. Il y a même un endroit, à Srebrenica, il y avait des milliers de tombes, incroyable. C'était le sanctuaire le plus important de la Bosnie, hein. Herzégovine, Bosnie-Herzégovine, voilà. Alors, vous savez qu'avant, ce territoire s'appelait la Yougoslavie, et Tito avait réussi à maintenir toutes les ethnies, les religions, en une seule nation. Et c'est le jour où il est mort que tout a dérapé. Alors, chacun a voulu... Et alors maintenant, ben, la Yougoslavie, c'est l'équivalent de deux ou trois États, maintenant, vous voyez. Et alors, bon, moi, j'ai appelé ça Potokari parce que c'est un des sanctuaires qui est en plein dans la ville de Sarajevo. Zebla revoyait cette horreur qu'elle avait subie dans sa chair. La montagne de Srebrenica hantait ses nuits depuis bientôt 12 ans, l'âge d'Adam. Donc, 12 ans, ça veut dire que ce poème, je l'ai écrit en 2008, oui. Donc, son fils grandira à la mosquée, loin des coupoles orthodoxes, malgré cette moitié violée à part entière à sa mère par cet homme venu de Serbie. Au final, bon, sa mère a été violée et il est né de ce viol. Mais c'est des histoires vraies, ce que je vous dis là, hein, c'est pas du cinéma. Hein. On aurait pu le faire en cinéma. Ouais. J'aurais pris, par exemple, mon petit-fils pour faire le fils. Ah non, il est métis, ça n'aurait pas marché, non. Jana, elle, avait préféré rejeter cette vie avec le sang de l'enfant, volé par un scorpion malgré le massacre des enfants. L'homme aura craché son venin en vain. C'est-à-dire qu'elle a fait expulser, elle s'est fait avorter. Voilà. Hein, pour ne pas garder l'enfant d'un assassin. Elle revendiquait ses origines malgré le danger d'en reparler. Elle ne pouvait oublier ce génocide. Les souvenirs sentaient le sang de la vengeance et la souffrance d'un deuil jamais commencé. Son corps n'avait pas oublié la violence de ce viol et le rejet de cette vie illégitime. Son esprit se chargeait de colère malgré l'amnésie du peuple bosniaque. Les femmes de Srebrenica ne réclamaient que justice, puisque les corps avaient disparu avec le temps. Elles retrouvaient parfois un visage d'assassin parmi la foule. Il y a des corps qu'ils n'ont jamais retrouvés, hein, dans des charniers, c'est incroyable, hein. Le jeune Adnan, lui, ira prier sur une tombe, celle de celui qui aurait pu être son père parmi les 8372 victimes à Potokari. Zelka et Jana, la main dans la main, parcouraient le mémorial en refaisant un monde à leur façon en alerte. On a l'air pleine de haine et d'une nouvelle raison d'espérer à une justice promise. Justice promise. Adam courait autour des tombes musulmanes sans se soucier du lendemain. Ben oui, c'est un gamin. Voilà, et ce fut écrit donc le dimanche 6 janvier 2008 à 14h44, exactement. Voilà. Et ça m'a marqué, ça. J'ai fait plusieurs poèmes là-dessus, hein, sur mon séjour à Sarajevo, parce que c'était tellement triste de voir toutes ces tombes. On a eu des témoignages d'une mère qui a cherché ses enfants, ne les a jamais retrouvés. Alors, dans quel charnier? Elle a fait tous les charniers, elle n'a jamais retrouvé ses enfants. Oui, c'est... Alors bon, ce qui se passe en ce moment en Palestine, c'est pas mieux. C'est même pire. Enfin, c'est pire. C'est pire au nombre de morts, mais c'est pas pire en tant que génocide. C'est pareil. Alors, on va être un petit peu plus gay. Hein, enfin, gay. Attention, hein, moi, je suis gay sans être gay. Hein. Bon. Alors, là, c'est un voyage que j'ai fait de Paris à Limoges, en train. J'étais accompagné d'un copain. Et je ne sais plus si c'est à Orléans ou à Paris, je ne me souviens plus. Il y a un couple avec deux gosses qui montent. Et vous allez voir ce qu'on peut faire d'un couple en termes de prose. Parce que moi, c'est de la poésie libre. Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de queue de cheval, il n'y a rien. Tout va comme... Alors, ça s'appelle Le Cou Nu de Forez. C'était le 23 décembre 2004. Oui, ce n'était pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, ça fait 21 ans. Le vieux coq, installé sur une banquette du Paris-Limoges, portait tellement beau que le wagon en corail respirait une odeur de basse-cour. La crête écarlate comme un bottin mondain et la glotte basse comme une cour mal pavée. Le volatile bardé de bijoux et de bagues ergotait en surveillant son poussin, ses deux poulets et sa poule. La pondeuse ressemblait tellement à de l'anonymat qu'elle en était fade par rapport à ce coq hardi. L'absence d'éclat chez la femelle offrait au mâle sa véritable nature dans ce train bondé serré. Le coq, au cou enrubanné de colifichets, ressemblait à la femme à barbe rousse. Ses bras, alourdis par des bracelets d'argent, mal gagnés certainement, étaient convoités par sa poule dépourvue de parure, mais avec une petite coquetterie à l'œil, car le beurre noir qu'il lui avait mis le se voyait encore. Bon, en plus, il la tapait. Hein. Mais c'est vrai, elle avait un œil de beurre noir, en plus. Je n'avais pas encore réussi à identifier cette espèce mâle avicole excentrique. Il n'était pas né chez les poulets du Gers, à mon avis. Rien n'indiquait qu'il était un cavaleur. Peut-être un Gaulois doré ou un roi d'Islande. J'optais pour le cou nu de Forez, qui permettait sans doute de mettre ses colliers en valeur. Alors vous voyez, le cou nu de Forez, c'est une espèce de poule qui est complètement... Le cou est complètement déplumé. Mais c'est naturel. Comme moi, vous voyez, moi, mon cou est déplumé. Ici, il y a la barbe qui cache un peu mon cou, mais bon. La famille laissa en descendant à Limoges quelques grains de maïs sous le siège d'un nègre-soie. Alors, un nègre-soie, c'est encore une espèce de poule, toute blanche, et les plumes, on a l'impression que c'est de la soie. Tellement, c'est beau, ça. Par contre, ça ne se mange pas, hein, c'est des poulets d'ornement, quoi. Je voyais déjà leur poulailler avec le chauffage au bois et la télévision sur le buffet de la salle à manger à côté de la photo du grand-père, celui qui gagna en mai 68 au Salon d'agriculture la médaille d'or du coq le plus élégant et du label rouge de France. Le coquelet, il était devenu à force, se retourna une dernière fois avec sous le bras l'équipe, commentant les derniers résultats du calcio. Le soleil se coucha, comme les poules d'ailleurs. La nature reprenait le dessus parmi les humains en magnifiant le mâle et en remettant la femelle à sa place au pondoir tout près du couloir. Voilà. Et alors, il y a un certain Jacques Prévert qui avait dit, ça tombait bien avec ce poème, d'ailleurs je l'ai mis en dessous, « Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. » En général, c'est les poules qui mangent l'herbe. Hein. Bon, voilà. Alors, cette histoire, elle est vraie, hein, elle est vraie. Et alors j'écrivais dans le train, j'avais mon copain à côté de moi qui regardait ce que j'écrivais, il se marrait, mais il faisait gaffe de ne pas faire voir au coquelet, là, qu'on rigolait de lui. Hein. Mais incroyable, il avait les cheveux roux, donc teintés, mais c'était rouge, c'était pas comme un rouquin, c'était rouge. Il avait la barbe rouge aussi, et il avait des bracelets, des colliers, c'était incroyable. Et sa femme, d'une simplicité, pas maquillée, habillée normalement, pas de haut talon, rien. Plus, elle vous dit, un œil au beurre noir. Hein. Bon, ça faisait une petite coquetterie dans l'œil, oui, voilà. Oui, c'est les choses qui arrivent, ça. Bon, allez, tiens, on va passer Charlie Lee Couture, le loup dans la bergerie.
Derrière le parking qui est désert la nuit, à côté de la voie ferrée dans une impasse étroite, il y a un petit bar au papier pain jaunâtre, papier pain jaunâtre. Le vin pique la gorge et le pain des sandwichs est plus mou qu'une éponge, bien plus mou qu'une éponge. C'est pas un bel endroit mais ça suffit pour boire un canon, deux canons avant d'aller se coucher. Un canon, deux canons avant d'aller se coucher. Les vendredis soirs, à peu près vers 7 heures, on l'entend arriver. Déjà depuis le parking, il fait voler la porte. Puis il entre en hurlant, salut la compagnie, salut la compagnie. Avec les yeux gonflés sur sa gueule de clochard, cicatrice au menton, mouchoir comme un foulard. Il s'appuie au comptoir et puis commence à boire en racontant une histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire dans la havre. Il a vu toute la terre, il a fait tous les pays. Il dit qu'il a été légionnaire, alors on l'appelle comme ça, on dit diable à légionnaire. Il dit pas l'Indochine, il dit qu'il a fait l'Indo, puis aussi l'Algérie. Il raconte que sa vie, et puis toujours la même histoire, son histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire accroupi. Son lit, quand il est sous, encore un peu plus sous, Gainsbourg il mélange tout. Dans sa voix éraillée, il se met à brailler en faisant le tour des tables. Il veut vendre des poèmes qu'il a écrit lui-même sur des feuilles de papier mal renéotypées. Et ça raconte encore toujours la même histoire, celle du loup de la troisième dynastie qui mange un missionnaire accroupi tout gris dans une blanchisserie à côté de la grande bergerie. On y comprend que dalle, mais ça fait rigoler tous les buveurs fatigués en sortant du boulot. Et même si on se fout de lui, on lui paye une tournée pour qu'il raconte encore et encore l'histoire du loup dans la bergerie, celle du missionnaire ébloui.
Charlie Lee Couture. Alors là, dans les mains, j'ai un gros livre, Les poètes du chat noir. Il est gros parce qu'ils étaient nombreux et ils étaient prolifiques. Parce que vous prenez par exemple Charles Cros, ben, rien que dans ce livre, il y a au moins 10 pages sur ses poèmes à lui. Vous voyez ? Et alors, je vais vous lire un de ses poèmes qui s'appelle Caravane. Alors, c'est marrant parce que ça m'a fait penser. Quand j'étais avec une caravane dans le désert de Mauritanie, et à un moment, j'étais tellement fatigué, je suis monté sur le chameau, au moins pendant 2 ou 3 heures. Hein. Parce que c'est fatigant de marcher sur le sable. Hein. C'est pas comme si vous marchiez sur des pavés, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Caravane. Oh, ne savoir jamais les dates. boire de l'eau, manger des dattes. Les déserts ont des chemins longs, plus gais vraiment que des salons. Quel soleil ! Ça manque de femmes ! Ces chameliers sont bien infâmes. Ils ne nous versent pas de boc, ils vous vendent des bijoux toc. Entre marcheurs, on se dénigre, rien, quel ciel, même pas du tigre. Oh, le désert, assez, assez, rien que des chameaux désossés. Des chacals, des rats et du sable, l'eau rare et le biscuit passable. Et l'on traverse tout cela, loin du boudoir, loin du gala. On vit, on va plein d'espérance, parce qu'on est des gens de France. C'est pas beau ça, hein ? Alors je sais pas s'il le récitait comme moi, hein, dans les salons, au Chat Noir, parce que le Chat Noir était aussi un lieu qui existe encore à Paris. Enfin, il s'appelle peut-être plus comme ça, mais l'immeuble existe encore. Hein. Voilà, ça c'est du Charles Cros. Hein. Mais Charles Cros, vous savez, c'est le fameux Arensort. Hein. Bon, elle est tellement connue, j'ai pas envie de vous la réciter, celle-ci, non. Non. Parce que, bon, je veux pas vous la sortir, celle du Arensort, non. D'ailleurs, le Haran, on dit il sort, mais non, il reste... Il reste chez le poissonnier, hein, ou dans votre assiette. Il finit dans votre assiette, le hareng sort. Oh, quand j'étais gamin, qu'on était en vacances avec mon père, là-bas, au bord de la mer, à Petit Fort Philippe, donc près entre Dunkerque et Calais, à 10 heures du matin, on se faisait un hareng sort avec des petites pommes de terre chaudes et puis un petit coup de rosé. À 10 heures du matin, bon, j'avais pas 8 ans, j'avais une vingtaine d'années, quand même. J'avais le droit de faire comme mon père à cet âge-là. Mais qu'est-ce que c'était bon ! Oh, et en sort, on allait chercher de l'autre côté, parce qu'il y a... Vous savez, c'est l'embouchure du fleuve Laa, le fameux utilisé pour les cruciverbistes. Hein, le fleuve de France, en deux lettres, ben ça peut être que Laa. Si c'était en italien, on dirait c'est le Pô. Hein, et c'est plus en... Je crois qu'en Russie aussi, il y a un fleuve qui est en deux lettres. Je ne sais pas si c'est le Ob ou je ne sais pas quoi. Bon, passons. Et alors, on passait la canotte. Donc, il y avait à peu près 100 mètres de traversée si c'était marée haute. Il y avait 25 mètres quand c'était marée basse. Hein. Et on payait 10 centimes pour passer. Et c'était un gars avec des rames. Hein. Alors maintenant, c'est un bateau à moteur où il y a 25 places, voire 30 places dedans. Oh, c'est pas comme avant. C'est pas comme quand j'étais gamin. Hein. Ça n'a plus rien à voir maintenant. Voilà, alors j'ai justement fait passer la canotte à mon petit-fils, mais c'était le fameux bateau à moteur, donc il était content parce qu'on avait traversé, en plus c'était marée haute, donc, et en plus le gars il était sympa parce qu'on était tous les deux dans la canotte, il nous a même fait faire un petit tour dans le port, au lieu de faire que le passage du quai à l'autre quai, quoi. Voilà, bon, allez, on va parler d'autre chose, hein. Mais enfin c'était bien, c'était une belle époque. Allez, tiens, Prévert. Alors, Prévert, il était chez le fleuriste, figurez-vous. Comme beaucoup de gens, hein. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez le fleuriste, hein, pour offrir des fleurs à ma femme. Ouais. À mes maîtresses, j'ai jamais offert des fleurs. Parce qu'il paraît que c'est pas bien d'offrir des fleurs à ses maîtresses. Parce qu'après, vous êtes obligé de les garder. C'est ça qui est chiant. Hein. Bon, je blague, hein. Bon, vous connaissez, hein, Je suis sérieux, j'ai vécu 50 ans avec ma femme, malheureusement, mais elle est partie. Mais elle est partie dans une petite urne, figurez-vous, ouais. Donc, elle ne m'a pas trompé. Elle s'est trompée, plutôt. Hein. Chez la fleuriste. Un homme entre chez une fleuriste et choisit des fleurs. Le fleuriste enveloppe les fleurs. L'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent. L'argent pour payer les fleurs. Mais il met en même temps, subitement, la main sur son cœur. Et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre, et puis les fleurs tombent, en même temps que l'homme, en même temps que l'argent. Et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt. Évidemment, tout cela est très triste. Il faut qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt, ces fleurs qui s'abîment, et cet argent qui roule. Et qui n'arrête pas de rouler. Voilà, vous vous rendez compte, ça se termine comme ça. Hein. Peut-être que l'argent, il continue de rouler, là, chez la fleuriste. Peut-être. Bah oui, parce que c'était des pièces magnétiques, comme ça, puis il y avait un aimant un peu plus loin qui traînait dans la cour de la fleuriste. Les, 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 les rondelles, c'est-à-dire les sous, hein, les pièces. Hein, parce que l'argent qui roule, ça peut être que des pièces, ça peut pas être des billets. Bon, allons, vous avez compris quand même le sens de ce poème, j'espère. Hein. Bon, allez, on a fait le tour de ces questions. Tiens, on va un peu slammer, l'anthologie du slam. Alors, oh, c'est pas gentil ce qu'il dit, quoi. Je haïs Rousseau. Oui, c'est bien lui. Je haïs Rousseau, son œuvre et ses disciples, qui ont tant œuvré à nous rendre bêtes, à remplir de mensonges nos pauvres têtes, de tous ces livres creux, j'ai fait le périple. Je haïs Rousseau, l'hérétique et le traître, qui fait de nous des martyrs dans un monde cruel, nous asservira pour un simple écuelle, pour nous faire redouter le fouet du maître. Je haïs Rousseau et tous ceux qui, comme lui, hérident des dogmes sur ce qu'ils ignorent, nous parlent de vertu et qui se déshonorent, se sentent abandonnés alors qu'ils ont fui. Je haïs Rousseau, le critique et le censeur, le philosophe, le romancier et l'essayiste, le penseur, le musicien, comme le moraliste, et même autant l'homme que l'auteur. Je haïs Rousseau, Héloïse et l'Émile, les promenades de vers solitaires, même s'il y repose à 6 pieds sous terre, je ne mettrai jamais les pieds à Hermenonville. Alors, je ne vous ai pas dit de qui c'était, merde, c'est vrai. Oui, attendez, je cherche l'auteur. Il est quelques pages avant. Oh, bah, alors, il est où ? Alors, voilà. Jacques André. Il est né en 1960 et un technicien à la recherche d'un emploi. Mais ça, c'était en 2002. J'espère qu'il a trouvé son boulot hein, depuis. Hein. Voilà, Jacques André. ils sont doués, hein, les slammeurs. Bon, on ne sait jamais à quelle heure ils se couchent. Alors, tiens, ah, je vais vous repasser ce fameux chanteur africain venant de Bobo Dioulasso, et il a vécu dans le même village que ma fille adoptive, Soba Tunga. Te volo de
te fantande nyuma long tungamande tungawo tungawo kana watu ngana ikufe kana watu ngana ikufe
Voilà. Bon, on vous le repassera, lui, hein, pas la même chanson. Hein. Bon. C'est joli à entendre. Bien sûr, on ne comprend pas les paroles, puisque c'est de l'africain. Alors, je ne sais pas si c'est du Djoula. Je ne sais pas, parce que ma fille ne l'a toujours pas écouté. Je lui ai prêté le CD, elle ne l'a toujours pas écouté pour savoir si c'était du Djoula ou un autre dialecte, en fait. Alors là, j'ai un poème qui vient du fameux livre « Poèmes pour des filles d'océan ». Ce livre a été édité, en 2005. Mais j'ai un poème qui date de 2001. Le galop des sirènes. Chaque matin, le vent annonçait que le cheval ne savait toujours pas nager. Et pourtant, je voyais là-bas, sur les vagues, dès le soleil levé, à galoper sans se soucier de savoir s'il savait vraiment nager. Il arrivait sur le sable mouillé pour rapporter la sirène échouée qui chaque nuit venait chercher un amour terrestre oublié. Une nuit, un amant arriva encombré de paroles pour lui dire qu'elle ne devra plus attendre. Il partira avec elle au petit matin, pour toujours. L'homme s'enfonça à l'aube dans l'océan en prenant la belle sirène par les bras. Depuis cette histoire, plusieurs chevaux parcourent vainement chaque matin les vagues pour rendre à la mer les sirènes qui attendaient l'éternel amant sur le sable d'une plage. La légende raconte que les femmes de terre prirent la mer pour tuer les sirènes qui volaient chaque nuit leurs amants. Voilà. Et ça, c'est vrai. Hein. Ah, je peux vous dire que c'est vrai. Moi, je l'ai vu faire. Hein. J'ai vu la sirène. Hein. Et la sirène du bateau, oui. Oui, parce que chaque bateau a une sirène. Hein. Mais pas avec une queue, hein, pas avec des... Non, une sirène qui fait toup, 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 toup. Vous avez entendu une sirène qui fait ça? Non. Bon, une vraie sirène, hein, je parle des sirènes de l'eau. Hein, voilà. C'est joli, hein. Bon, il paraît que je vais bientôt être obligé de vous laisser parce que le devoir m'appelle. Eh oui, le devoir, oui. Ben oui, vous savez que je fais des devoirs de vacances. Hein. Vous savez, ces petits livres qui vendent selon les classes où vous étiez. Alors moi, j'ai pris le livre des... de 80 à 81 ans, voilà. Hein. C'est pour que quand je vais avoir mes 81 ans, je sache bien parler, écrire, calculer, que je connaisse toutes les espèces d'oiseaux, de serpents, de programmateurs de radio, voilà. Hein. Allez, je vous laisse. Françoise, je ne t'ai pas dit bonjour, mais ça sera pour la prochaine fois. Allez, au revoir à tous.